Gloire à Dieu. Voilà, on va ouvrir la parole du Seigneur. Et ce matin, donc, c'est vraiment une joie d'avoir des frères, des sœurs au milieu de nous. Amen. Ça va? Si vous êtes là, faites ça. Ouais. Amen, amen, amen. Voilà, ça fait plaisir de vous voir, de vous revoir. Alors, j'ai beaucoup hésité à prêcher sur « bas les masques ». Mais Dieu te voit derrière ton masque. Mais non, je ne vais pas faire ça, bien sûr, évidemment. Mais en tout cas, c'est une grâce de Dieu de pouvoir reprendre, vous savez, de pouvoir reprendre un petit peu la vie de l'Église. Je suis d'accord avec ce que disait un pasteur dernièrement. L'Église, ça ne se regarde pas, ça se vit. Et c'est important la notion de rassemblement. Elle est partout dans la parole de Dieu. Merci pour Internet, pour les supports qui viennent nous secourir. Mais rien ne vaut le réel. Amen. Rien ne vaut la réalité. Et vous savez, le mot écran, ça a deux sens. Hein. Le mot écran, c'est à la fois on peut voir des choses, c'est fantastique. On peut être en contact avec des gens qui ne sont pas là. Mais en même temps, le mot écran, ça veut dire aussi voile, écran. Il y a quelque chose entre toi et moi, un écran, vous voyez. Et donc, c'est important que les voiles, les écrans, à un moment donné, on va jeter les tablettes et on va revenir dans la maison de Dieu, se revoir tous ensemble, se faire des bisous. Amen. Des saints bisous, gloire à Dieu. Alors ce matin je vais partager un thème avec vous. J'ai envie de vous encourager, j'ai envie de nous encourager et de vous encourager. La parole de Dieu est efficace, vous le croyez? La parole de Dieu, il y a deux choses qui sont efficaces sur la planète Terre. Il y a la prière par le Saint-Esprit, la prière fervente du juste a une grande efficace. Et la Bible dit aussi que la parole de Dieu est efficace parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Elle est comme une épée plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Et elle pénètre à l'intérieur, la parole de Dieu. Et elle fait des œuvres extraordinaires, la parole de Dieu. Amen. Oui, la parole de Dieu est vivante. Et quand Dieu parle, c'est ce qu'il avait compris, hein, le centenier romain, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Une parole de Dieu. Parfois, il y a des longs discours. Je vais essayer de ne pas être trop long pour ne pas vous en suquer. Parce que là, vous respirez votre dioxyde de carbone en plus grande dose, j'imagine. Mais la parole de Dieu, lorsqu'elle sort de la bouche de Dieu, elle a un pouvoir particulier, eh bien, pour guérir, pour restaurer, pour apporter la provision, pour faire toutes sortes de bonnes choses. Alors ce matin, je vais nous encourager et je vais essayer de parler quelques instants sur l'importance de vivre dans la victoire. Dieu veut, frères et sœurs, en fait, Dieu a de l'ambition pour nous. L'ambition de Dieu, c'est que nous ayons une vie de victoire. La vie de victoire, c'est le plan initial de Dieu. Dieu a toujours voulu que sa créature soit dominante, réussisse, si vous voulez. Ou je vais dire même un gros mot, que nous ayons du succès dans toutes nos entreprises. Amen. Et quand Dieu est là, c'est tout à fait possible. Alors la victoire, c'est quoi? La victoire, c'est une issue favorable lors d'une bataille, d'une guerre. Parce qu'il y a des guerres et des batailles à mener. En réalité, il n'y a pas de victoire sans combat. Ça n'existe pas. La victoire, c'est un succès remporté dans une lutte, une compétition. Et la victoire, on va ouvrir la parole de Dieu, c'est un ordre que Dieu nous donne. Ce n'est pas une option. Dans un psaume messianique, le psaume 45 et au verset 5, c'est un psaume qui parlait de Jésus, de sa venue, mais c'est une parole aussi qui peut très bien, par ricochet, nous être adressée. Dans le verset 5 du psaume 45, Dieu dit « Oui, ta gloire, sois vainqueur. » Alléluia. Vous savez, quand la Bible dit « Soyez toujours » quoi ? Joyeux. Soyez toujours joyeux. Et ici, il est dit « Sois vainqueur. Monte sur ton char. » Défends la vérité, la douceur et la justice. La victoire, c'est comme un ordre, une injonction que Dieu nous donne ce matin. La victoire, c'est un défi que Dieu lance à chaque église de chaque génération. Dans les 7 lettres que le Seigneur a écrites via Jean aux églises de Laodice, aux églises de l'Asie mineure de l'époque, la Turquie actuelle, à chaque fois, Dieu dit à celui qui sera vainqueur. Ce qui m'a amené à réfléchir il y a quelque temps de cela pour nous dire en passant que jamais rien n'est acquis d'avance. On a pu être vainqueur hier, on a pu bien commencer hier, mais ce qui compte c'est de combattre jusqu'à la fin et de demeurer vainqueur. L'apôtre Paul disait à Timothée, combat le bon combat de la foi. Le combat de la foi consiste à garder une bonne conscience devant Dieu. Combat ce combat-là. Et Paul dira à la fin de sa vie, j'ai combattu le bon combat. Et désormais, la couronne m'est réservée. La victoire est un défi à relever. Il y a toutes sortes d'enjeux qui sont devant nous. Chaque jour, frères et sœurs et chers amis, l'ennemi nous lance des défis. Un petit peu comme du temps de David et Goliath dans cette vallée des térébintes. Lorsque Goliath était dans cette vallée, il dira « Je jette en ce jour un défi ». Et l'Écriture nous dit que personne n'osait le relever, mais David s'est levé pour aller confronter Goliath. Et aujourd'hui, je dirais que chaque jour, la vie est un défi. Nous avons des défis à relever. Des défis à remporter, des guerres à remporter. Elles sont parfois morales, psychologiques, mentales. Elles sont bien sûr spirituelles. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, dit l'apôtre Paul, mais contre des esprits méchants dans les lieux célestes, contre des principautés, des dominations qui sont des réalités, des entités qui parfois endorment les gens, mettre la pression aux gens, oppresse les gens, rend déprimés les gens, possède les gens. Les forces du mal existent et Satan existe. La victoire et la vie de victoire que le Seigneur nous propose, je dirais que ce n'est pas, pour ne pas être idéaliste ou plus exactement irréaliste, la vie de victoire comme une vie réussie, par la grâce de Dieu, parce que tout est toujours le résultat de la grâce de Dieu, une vie de victoire ne signifie pas que nous ne connaîtrons pas l'échec. L'échec fait partie de la réalité de tout homme. L'Écriture dit que tous ont péché. Le péché, c'est quoi ? C'est manquer le but, c'est vivre l'échec. C'est expérimenter de cuisantes défaites sur le plan moral et spirituel. La victoire et souvent, en réalité, au bout de l'échec. Winston Churchill a écrit « Le succès, c'est se promener d'échec en échec tout en restant motivé. » Tout en restant motivé. Oui, parce qu'il y a des épreuves, des échecs dans la vie des croyants et des chrétiens. Il y a parfois des moments d'incompréhension, des circonstances qui parfois sont de véritables épreuves douloureuses à supporter. Mais les difficultés, les épreuves et même les échecs dans la vie ne signifient pas qu'au bout il n'y aura pas, alléluia, la réussite et la victoire. Amen. Vous savez, il y a des gens très bien, qui ont connu des échecs cuisants. Mais parce qu'ils sont restés motivés, ont connu la victoire et le succès. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette présentatrice de télévision hyper connue aux États-Unis, Oprah. On raconte qu'elle a été licenciée de son travail de journalisme à 22 ans parce qu'elle était inapte à la télévision. C'est la journaliste la plus populaire des États-Unis. Walt Disney, vous connaissez ? Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'ils ne vivent pas sur cette planète, a été renvoyé de son travail d'illustrateur pour un journal en raison d'un manque de créativité. Si lui s'était laissé décourager par ce moment-là, il n'aurait pas eu le succès qu'il a connu. Michael Jordan, vous connaissez ? s'est fait exclure de son équipe de basketball au lycée. Mais heureusement qu'il a continué, n'est-ce pas ? Un président, le président Lincoln, c'est l'histoire d'une vie. En 1832, il perd son emploi. En 1834, il est élu à la législature. En 1834, il perd sa femme. En 1836, il fait une dépression nerveuse. En 1838, il est défait à la législature. En 1843, il est défait pour sa nomination au Congrès. En 1846, il est élu au Congrès. En 1849, il est défait comme officier de territoire. En 1854, il est défait au Sénat. En 1856, il est défait comme vice-président. En 1858, il est encore défait au Sénat. En 1860, il devient président des États-Unis. Mais vous voyez, il ne faut pas s'arrêter en cours de route. La Bible dit que le juste tombe 7 fois et 7 fois, il se relève. Alléluia. Alors ne regardons pas aux épreuves passagères. Les échecs sont passagers, mais le Dieu qui nous fait des promesses, sa parole est éternelle. Amen. Les échecs font partie de la vie. En réalité, nos échecs ne doivent jamais constituer le tombeau de nos espoirs, mais plutôt une école pour nos vies. Nelson Mandela a dit ceci: « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. » Les échecs de la vie ne sont pas là pour nous enterrer. Ils sont là pour nous promulguer des leçons. Alors ce matin, j'ai envie de te dire et de me dire, ne te laisse pas vaincre. Ne te laisse pas aller à la morosité. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette anecdote de cet âne, que c'était un vieil âne qu'un paysan a voulu enterrer parce qu'il était vieux, il était plus bon pour travailler, faire quoi que ce soit. Alors il a creusé un trou, n'est-ce pas ? Et puis ensuite, il a jeté le vieil âne dans ce trou. Et ensuite, une fois que l'âne était dans le trou, il a commencé à prendre sa pelle et puis à vouloir l'enterrer vivant avec sa terre. Mais à chaque fois que la terre venait sur le dos de l'âne se secouait. Et ainsi, l'âne est remonté à la surface. Et je crois qu'il faut se secouer parfois, alléluia, et pas se laisser vaincre. Quand l'ennemi est là pour nous mordre, pour nous atteindre, il faut secouer le serpent dans le feu de la présence de Dieu et avec le Seigneur. Et bien même ce qui voulait nous enterrer et nous faire du mal ne pourra pas le faire au nom de Jésus. Amen. Les luttes font partie de la vie. En fait, vouloir se soustraire aux luttes, aux combats de la vie, c'est mourir, c'est ne plus avancer et même reculer. Si nous voulons aller de l'avant, si nous voulons progresser, il faut faire face à nos adversités. Il faut avoir le courage de confronter nos adversités. Il est dit dans le psaume 78, verset 9, « Les fils d'Éphraïm, armés et tirés de l'arc, tournèrent le dos au jour du combat. » Aujourd'hui, je suis là pour nous dire, ne tournons pas le dos au jour du combat, mais faisons front à notre adversaire, le diable. Dieu nous a équipés, frères et sœurs. Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour pouvoir être plus que vainqueurs. Parce que l'ambition de Dieu, je parle un peu comme cela, Dieu a de l'ambition. L'ambition de Dieu pour toi et pour moi, c'est que nous soyons plus que vainqueur. Dans toutes ces choses, dans toutes les difficultés de la vie, c'est ce que Paul dira, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire pour vous, être plus que vainqueur, mais pour moi ça veut dire ça. Ça veut dire que je traverse une épreuve dans la vie, je traverse un moment difficile, je suis mis au sein de la fournaise comme Shadrach, Meshach et Abednego, et il fait chaud, et il fait très chaud dans l'épreuve. Et voyez, ils avaient des liens, ils avaient des choses que les ennemis, les hommes leur avaient mis dessus. Dans l'épreuve, les liens sont partis. Parce que dans l'épreuve, Dieu enlève toutes les scories, Dieu enlève tous les liens, Dieu enlève tout ce qui est mauvais. Mais ensuite, quand ils vont sortir de la fournaise brûlante, ardente, la Bible dit qu'ils vont connaître la prospérité. Plus que vainqueurs. Non seulement l'épreuve ne les a pas détruits, mais l'épreuve les a propulsés à un autre niveau. Vous voyez cette épreuve que nous vivons. C'est dramatique de voir une église vide. Ça crève le cœur d'un berger. Moi, vous pouvez pas vous imaginer la somme de souffrance que j'ai vécue toutes ces semaines de prêcher devant des chaises vides. Je sais que vous étiez derrière l'écran, mais comme c'est pas pareil. Et Dieu nous a donné ce qu'il faut. Dieu nous a équipés pour vaincre. Par exemple, pour vaincre le monde, dans 1 Jean au chapitre 5, vous savez, vous avez toujours le droit de venir avec votre Bible à l'église. 1 Jean chapitre 5 et au verset 4, il est dit, et c'est un passage intéressant, « Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. » Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi ? C'est notre foi. Face au monde et à ses convoitises, nous avons la foi. Alléluia. L'apôtre Jean dit toujours dans 1 Jean chapitre 2, verset 15, « N'aimez point le monde, c'est un ennemi le monde. » Ni les choses qui sont dans le monde, ni si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, oh, des fois on se sent être quelqu'un alors qu'on n'est rien du tout, sauf par la grâce de Dieu, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc comment on triomphe du monde ? La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et il est tout à fait possible de triompher des convoitises de cette vie. Il est tout à fait possible de triompher du monde, pourvu qu'on ait la foi ce matin. Amen. Seigneur veut renouveler, regonfler, reconstituer notre foi. C'est une foi vivante en un Dieu vivant. Jésus a aussi vaincu le monde. Il est dit dans Jean 16, 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Frères et sœurs, nous suivons un vainqueur, alléluia. Jésus a vaincu le monde et Jésus nous appelle par la foi à vaincre le monde. Amen. Seigneur, augmente-nous la foi ce matin. Donne-nous une foi dynamique et conquérante pour vaincre à nouveau le monde avec ses attraits et que le monde ne nous attire plus. Amen. Face au monde, Dieu nous donne l'arme de la foi. Face aux ruses du malin, parce que le diable existe, nous avons la parole de Dieu. Toujours dans l'épître de Jean, il est dit dans 1 Jean au chapitre 2 et au verset 14. Il est dit, « Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. » Est-ce qu'il y a des jeunes gens dans la maison de Dieu ? « Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » Nous pouvons vaincre le diable comment ? Le malin, le subtil. Celui qui tente, celui qui embrouille, celui qui rend confus, celui qui détourne les voies de Dieu par la parole de Dieu. Nous pouvons vaincre le malin et les jeunes gens de l'Église triompheront toujours du malin. Et là, ce n'est pas forcément lié à l'âge, mais c'est lié à la maturité spirituelle. Il y a des enfants, il y a des jeunes gens, il y a des pères. Les jeunes gens sont caractérisés comme étant des vainqueurs sur le diable, le malin. C'est une expression du diable. Il est malin. Il cherche par toutes sortes de subterfuges à tromper les gens. Et comment est-ce qu'on peut le désarmer ? Comment on peut le vaincre ? En utilisant l'arme de la parole de Dieu. Amen. quand Jésus a combattu dans le désert, Jésus a combattu avec l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. À chaque fois que le diable venait pour le tenter, le tromper, le séduire, Jésus disait, rétorquait, « Il est écrit !» Voilà pourquoi il est important de connaître la parole de Dieu, de vivre la parole de Dieu pour pouvoir appliquer à chaque situation de nos vies la parole de Dieu. Alléluia. Et si nous sommes remplis de la parole de Dieu, si nous sommes pleins, si elle habite en nous dans toute sa richesse, quand Satan viendra frapper à notre porte pour nous parler, nous discernerons ses voix, nous discernerons ses mensonges et nous le désarmerons au nom de Jésus-Christ. Amen. Face au monde, Dieu nous donne la foi. Face à l'ennemi, au malin, le Seigneur nous donne sa parole. Satan a plusieurs façons d'agir. Il est aussi qualifié comme étant l'accusateur des frères. Et face à l'accusation de Satan, qu'est-ce que nous avons pour nous défendre? Quelle est notre arme? Quelle est notre stratégie? Le sang de Jésus. Apocalypse 12, verset 10, « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité de l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, parce qu'il y a eu un avant et un après la croix. » Quand Jésus, vous savez, dans l'Ancien Testament, on voit Satan accuser Job. Vous vous rappelez de cela? Il se présente au milieu des fils de Dieu. Et puis là, il va s'instaurer un discours entre Satan et Dieu. Et la Bible nous dit que Satan va commencer à faire un procès d'intention à Job. Et il va accuser Job. Et Job va connaître une période, une saison dans sa vie d'attaque féroce de Satan. Mais vous voyez, quand Jésus a donné sa vie sur la croix, quand Jésus a livré son sang, et qu'il est ressuscité le troisième jour, qu'il est remonté au ciel le jour de l'ascension en nous bénissant, il est remonté dans le lieu très saint, il est remonté dans le tabernacle éternel en présentant au Père quoi ? Son propre sang. Et aujourd'hui, il plaide auprès du Père comme un avocat pour nous défendre, comme avec quoi ? Quelle est sa voix ? C'est la voix du sang qui parle mieux que celui d'Abel. Et à partir du moment où Jésus est entré dans le lieu très saint, où Jésus est entré dans ce troisième ciel, désormais Satan a été précipité sur la terre. Il ne peut plus nous accuser devant Dieu parce que nous avons le sang précieux de Jésus. Amen. Et le sang précieux brise le pouvoir de la mort et brise le pouvoir de l'accusation démoniaque. Alléluia. Amen. Hey, ça me fait du bien de prêcher devant un public. Et il est dit, Apocalypse 12, verset 11, « Ils l'ont vaincu ». À cause de quoi ? Parce que c'est des bonnes personnes avec une bonne moralité ? Non, l'ange exterminateur en Égypte, s'il n'est pas entré dans les maisons, ce n'est pas parce qu'ils étaient de race juive seulement, ce n'était pas parce qu'ils avaient une moralité ou qu'ils allaient observer les commandements de Dieu. Non, non, non. C'est tout simplement parce qu'ils voyaient le sang. Et à partir du moment où il y a la foi dans le sang, alors nous pouvons et nous devons triompher du malin de Satan, de l'accusateur. Alléluia! Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alors il y a le sang et il y a la parole. Vous savez que ça fait du bien de donner la parole à notre âme. Vous savez, ça fait du bien. Parce que tant que je me suis tue, disait l'homme de Dieu, mais je gémissais toute la journée. Mais commençons à proclamer la bonté de Dieu, alléluia. Commençons à parler à notre âme et faisons louons le Seigneur avec nos âmes ce matin, amen. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et le plus grand de ses bienfaits, c'est qu'il est mort pour nous. Son sang a été versé et aujourd'hui, on est libre par l'œuvre de la croix de Jésus, notre Sauveur, amen. Alors face au monde, nous avons la foi. Face aux ruses du malin, nous avons la parole de Dieu. Face à l'accusateur, nous avons le sang et la parole de notre témoignage. Et puis face au mal, parce que le mal existe et il est une réalité non seulement extérieure, mais intérieure. Face au mal, nous avons la possibilité de pratiquer le bien. Alors là, ce n'est pas toujours facile. Vous savez, quand l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 12, il dit ceci, verset 17, « Ne rendez à personne le mal pour le mal. » Ça, c'est tout à fait naturel. Œil pour œil, dent pour dent. Tu me crèves un œil, je te crève un œil. Tu me casses une dent, je t'en casse une. C'est une règle d'égalité, n'est-ce pas ? Ça, c'était l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, il est dit « Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, s'il est possible, autant que cela dépend de vous. Soyez en paix avec tous les hommes, autant que cela dépend de vous. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. » Et verset 21, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Surmonter le mal par le bien, c'est quoi dans ce contexte? C'est faire un sourire à celui qui te fait la tête. Surmonter le mal par le bien, c'est dire du bien de celui qui dit du mal de toi. Surmonter le mal par le bien, c'est encourager celui qui te décourage. Surmonter le mal par le bien, c'est aimer les gens qui ne t'aiment pas. Aimer les gens qui s'opposent à toi. Aimer les gens qui s'opposent à tes projets. C'est ça, surmonter le mal par le bien. C'est ne pas laisser le mal prendre place dans notre vie, mais c'est être déterminé à mettre le bien là où le mal veut prendre place. Amen. Et Dieu dit que le mal frappe à notre cœur constamment. Il est comme du temps de Caïn, il se tient à la porte et il cherche une occasion favorable pour se jeter sur nous. Mais toi, domine sur lui. C'est-à-dire que nous avons le pouvoir, l'autorité de le faire. Mais pour cela, face au mal et face à notre propre nature aussi, qui elle n'est pas forcément docile et obéissante, nous avons Dieu qui peut nous aider. Pourquoi je dis ça ? On peut aller dans 2 Corinthiens 2, verset 14, et je ne vais pas aller plus loin parce que je suis conscient de la réalité de ce moment. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14, il est dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. » Alléluia. Moi, quand je lis ça, je me dis « C'est fantastique la vie chrétienne. » Amen. Le Seigneur veut qu'on triomphe, pas de temps en temps, mais toujours. Toujours triomphant. Toujours vainqueur, toujours allant de l'avant. Mais vous voyez, la réalité de cette traduction, c'est ceci. Grâce soit rendue à Dieu qui triomphe toujours de nous. Ou encore qui nous amène toujours au triomphe. Mais comment ? Dieu nous amène toujours au triomphe. En triomphant de nous. En triomphant de notre chair. En triomphant de notre mauvaise nature, en triomphant de notre vieil homme. En réalité, je ne peux pas être vainqueur dans la vie si je ne suis pas vaincu dans ma vieille nature. C'est l'homme nouveau qui doit prendre la place dans ma vie. Amen. Si l'homme nouveau est vainqueur, si je soigne ma vie intérieure, ma communion avec le Seigneur, alors ma chair sera vaincue et je deviendrai vainqueur. Amen. Et le mal en moi sera vaincu et je deviendrai un vainqueur. Alors ce matin, frères et sœurs et chers amis, j'aimerais vous dire ceci, que personne ne se décourage. Même si l'ennemi est comme Goliath et que ton ennemi en ce moment, qu'il soit intérieur, qu'il soit extérieur, te fait trembler ou fait trembler ton entourage, j'aimerais nous rappeler ce matin que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ? Si Christ est en nous, la Bible dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Satan n'est pas plus grand que Dieu. Et le problème des fois, c'est que dans notre cœur, nous avons des batailles à remporter, des victoires à remporter. Mais même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Dieu est plus grand que les condamnations. Dieu est plus grand que les mensonges du diable. Dieu est plus grand que les mauvaises pensées. Dieu est plus grand que ton cœur. Amen. Vous savez, il y a des fois des situations qui peuvent paraître être des échecs. Il y a comme des paradoxes dans la parole de Dieu. Vous voyez la croix, ça pourrait sembler être un échec à vue humaine. Et d'ailleurs, à vue humaine, c'est un échec la croix. Un homme qui meurt sur une croix, qui se laisse faire, semblable à un agneau qui va à la boucherie, c'est un échec humainement. Parfois, il y a des situations de vie qui semblent être des échecs. Mais en réalité, derrière des apparents échecs, il peut y avoir des victoires spirituelles. En fait, derrière l'échec naturel, humain, de quelqu'un qui venait de perdre, il y avait la plus grande victoire, le plus grand triomphe que l'humanité n'ait jamais connu. Quand Jésus a dit « Tout est accompli », c'était, bien aimé, un cri de victoire, alléluia. Et aujourd'hui, tout est accompli. En réalité, la victoire est acquise. Dieu nous a donné des armes, il suffit de les utiliser et nous pouvons, au nom de Jésus, être plus que vainqueurs, même dans des situations qui semblent désespérées. Qui semble désespéré. Ce qui semble désespéré à nos yeux parfois, aux yeux de Dieu, c'est peut-être l'occasion pour nous de vivre de nouvelles victoires. Vous savez, cette période qu'on a vécue de séparation, de distanciation sociale, je suis sûr que dans ces moments qui pouvaient sembler être des échecs, être des moments difficiles. Je suis sûr qu'en réalité, on a sans doute remporté des batailles dans notre cœur et dans notre vie. Je suis sûr, parce que Dieu ne fait rien au hasard. Et je suis sûr que ce qu'on a vécu là, ça va être un tremplin pour aller beaucoup plus loin avec le Seigneur. Alors ce matin, redevenons ou soyons l'armée de conquérants. Dieu veut, Dieu a cette ambition-là pour nous. La volonté de Dieu, c'est pas que ça n'a jamais été que son peuple soit esclave en Égypte, jamais. C'est pour ça qu'il a libéré. La volonté de Dieu, ça n'a jamais été qu'il tourne en rond dans le désert, jamais. La volonté de Dieu, c'est qu'il aille en conquête, de conquête en conquête, de victoire en victoire. La volonté de Dieu, comme du temps des justes, et pas qu'un coup il soit en haut, un coup il soit en bas. La volonté de Dieu, c'était qu'il soit toujours dans la victoire. Moi, quand je lis les récits, la vie de l'apôtre Paul, je vois un homme qui est toujours dans la victoire, même si, humainement, parfois, on a l'impression qu'il n'est pas dans la victoire. Les gens pensent qu'il n'est pas dans la victoire. Vous savez, quand il s'est fait piquer par le serpent, « Oh, c'est un jugement de Dieu !» Mais non! Il n'a pas bougé, il n'a pas bronché. Le diable n'a pas eu d'effet sur lui. Amen. Et quand on sait utiliser les armes de Dieu, l'ennemi n'a pas d'effet sur notre vie. Et si on passe par des moments de désert, même dans le désert, on doit être comme des Caleb, garder un état d'esprit, une mentalité de vainqueur. Amen. Quand tout le monde disait, oh, c'est foutu, on ne va pas s'en sortir. Quand tout le monde disait cela, lui, il disait, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Alléluia! Alléluia! Bientôt cette salle, elle va être à nouveau remplie. Amen! Bientôt cette salle, elle va être à nouveau, elle va même doubler. On va même passer à 2 cultes. Amen! Je vais vous faire une confession. J'ai eu peur pendant cette période de confinement. Vous savez, bon, il nous regarde, notre trésorier, mais je parle en tant que pasteur, évidemment. Mais à un moment donné, au mois d'avril, le frère, il me disait, on est à moins 5000 euros, pasteur. Et là, si tu veux me casser le moral, ben, tu me dis ça, hein, parce qu'on a quand même un crédit, on a quand même des remboursements, on a des projets aussi à mener. Et je me suis dit, bon, mais ça, c'était au mois d'avril. Si ça continue en mai, en juin, si on va à ce rythme, ça va être compliqué, n'est-ce pas? Et puis, heureusement, gloire à Dieu, on a eu un conseil d'administration. Et en réalité, au mois d'avril, à la fin du mois d'avril et de mai, on n'a pas eu moins 5 000, on a eu plus 7 000. Donc, je me suis inquiété pour rien. Avec Dieu, Dieu est surprenant. Il faut rester dans un esprit de victoire. Vous savez, il y a un chant qui disait « L'esprit de victoire habite en moi ». Ne voyons pas les obstacles, les difficultés comme des choses qui vont nous enterrer. Secouons la poussière et utilisons-les pour aller plus loin avec le Seigneur. Oui, le meilleur est devant. Oui, l'Église est victorieuse. Oui, rien ne peut détruire l'Église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Elle n'est pas bâtie sur des petits hommes, elle est bâtie sur Jésus-Christ. Elle est bâtie sur la personne de Jésus même. Et si on suit Jésus le vainqueur, alors nous serons nous aussi plus que vainqueurs. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va prier le Seigneur. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ton Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Merci parce que tu nous as donné les armes face au monde, face au malin, face à l'accusateur, face à nous-mêmes, à nos propres fautes, à nos propres péchés. Merci parce que par ton Saint-Esprit, tu triomphes de nous, tu triomphes de nos misères, Seigneur, et tu nous rends vainqueurs. Seigneur, merci. Merci parce qu'avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Merci parce qu'avec toi, Seigneur, la victoire est assurée. Merci parce que tu n'as jamais perdu une bataille. Tu n'as jamais perdu une guerre. Et je te prie ce matin pour chaque bien-aimé, Seigneur, qui sont là dans ce lieu, mais qui nous regardent à l'écran. Je te prie ce matin afin qu'il y ait de la victoire dans la maison du Seigneur, qu'il y ait de la victoire dans les foyers de tes enfants. Seigneur, rends-nous triomphants ce matin. Donne-nous de réaliser la puissance des armes de Dieu. Seigneur, je te prie de nous donner la foi, Seigneur. Je te prie de nous donner une plus grande foi pour vaincre notre ennemi. Je te prie, Seigneur, de nous donner de réaliser l'œuvre de la croix. Je te prie, Seigneur, de nous donner d'utiliser l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu pour déjouer les pièges, les mensonges de Satan. Seigneur, donne de nouvelles victoires à tes enfants, que nous soyons vainqueurs du mal, que nous triomphons du mal. Seigneur, donne-nous, Seigneur, d'aller, Seigneur, de confronter nos ennemis, Seigneur, de ne pas craindre ce matin aucun mal au nom de Jésus. Seigneur, je te prie peut-être pour quelqu'un qui est dans l'échec, pour quelqu'un, Seigneur, qui a échoué. Seigneur, que ton esprit ce matin souffle sur lui, doucement pour lui dire relève-toi, recommence, le juste tombe cette fois et il se relève. Oui, le juste peut être par terre, mais le juste ne reste pas par terre. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur, encourage, bénis dans le nom de Jésus ce matin. Amen.
Nous espérons que vous avez été encouragé par ce message. Pour plus de renseignements sur notre Église ou découvrir d'autres messages de l'Évangile, n'hésitez pas à visiter notre site églisecielouvert.com et à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Nous vous invitons également à nous retrouver chaque semaine à Saint-Étienne-du-Rouvray.